Ce fut un moment historique qui a révélé que le rôle de l'économie aujourd'hui n'était pas si différent de celui de la Bible au Moyen Âge, une source d'excuses pour les puissants. Existe-t-il une théorie économique globale et cohérente? Et sinon, est-il possible d'en avoir une un jour? Oui. Voyez-vous, Roger, les modèles sont des systèmes mathématiques d'équations qui ne peuvent prédire quoi que ce soit que s'ils sont résolus. Mais pour être résolus, les modèles doivent supposer ce qu'ils doivent démontrer. Et c'est une tendance de l'économie capitaliste vers un certain équilibre, un équilibre dynamique, mais un équilibre quand même. Et c'est là que le bât blesse, car le capitalisme, de mon point de vue, est un système qui est en permanence dans cet équilibre. Par conséquent, les échecs prédictifs sont intrinsèquement liés à chaque modèle économique ou de banque centrale. Et je pense que c'était le sens profond de la boutade de John Kenneth Galbraith selon laquelle l'économétrie a été conçue pour donner bonne figure aux astrologues. Cela ne signifie pas pour autant que nous n'avons pas besoin de la théorie économique. Cela signifie que nous avons besoin de théoriciens économiques dotés d'une rare combinaison de talents, comme l'a souligné Keynes. Souvenez-vous de ce qu'il disait. Un bon économiste expert en politique économique doit être à la fois mathématicien, historien, philosophe et décideur politique. Il doit envisager le particulier dans une perspective générale et être capable d'aborder des idées abstraites et concrètes dans une même élan de pensée. Il doit étudier le présent à la lumière du passé pour préparer l'avenir. Il doit être déterminé et désintéressé, aussi distant qu'un artiste et aussi pragmatique qu'un décideur politique. En résumé, pour être socialement utile, les décideurs politiques doivent savoir non seulement mettre de côté les modèles économiques mathématiques au moment critique de la prise de décision, mais surtout, comme le disait Keynes, être désintéressé, autrement dit, indépendant des intérêts particuliers, non pas du gouvernement, mais des intérêts particuliers. Par exemple, les financiers qui, après 2008, ont harcelé les décideurs politiques pour les forcer à adopter une combinaison cynique d'austérité draconienne pour la grande majorité et d'impression monétaire essentiellement socialiste pour eux-mêmes. Ce fut un moment historique qui a révélé que le rôle de l'économie aujourd'hui n'était pas si différent de celui de la Bible au Moyen Âge, une source d'excuses pour les puissants. D'accord, Janice, merci beaucoup. Passons au thème principal des débats et des questions. Nous divisons la grande question en trois plus petites. La première question est, faut-il conclure que l'incapacité des banques centrales à prévoir, et a fortiori à éviter, les crises économiques, est la preuve d'une profonde lacune dans leur compréhension? Je vous en reparlerai, Yanis, car je pense que cela découle parfaitement de ce que vous disiez. Nous approfondirons ensuite la question, mais Yanis, donnez-moi votre avis à ce sujet. Il est clair que la compréhension de la plupart d'entre nous est erronée, cela ne fait aucun doute. Mais le problème principal, si vous le permettez, est de nous concentrer sur le véritable problème. Le véritable problème est qu'avant 2008, les banquiers centraux ont complètement ignoré l'inflation des prix des actifs créée par un tsunami de dettes privées et se sont concentrés uniquement sur l'inflation des prix, et non sur celle des actifs. Pendant ce temps, ce qui se passait sous la surface était cette explosion de la planche à billets par le secteur privé, par Wall Street, via les produits dérivés structurés, etc. Cela a provoqué l'effondrement total, la catastrophe de 2008. Et c'est alors, à ce moment-là, que la tragédie des banquiers centraux a commencé, car nos États, nos gouvernements, ont échoué dans leur tâche d'élaborer des mesures économiques et politiques par le biais du pouvoir législatif et de nos parlements. Nos parlements ont dû intervenir et se charger de relancer l'économie réelle, un véritable investissement. Au lieu de cela, ils ont laissé les banquiers sauver le secteur financier en imprimant des tsunamis de monnaie. On s'est donc retrouvé avec d'énormes liquidités, les plus importantes de l'histoire du capitalisme, tandis que tous les autres, les politiciens, ont laissé tomber la situation. Ils ont pratiqué l'austérité. L'austérité a détruit la demande globale et l'investissement. On a donc assisté à cette immense indigence, à une offre monétaire record, à une impression de liquidités par les banques centrales et à une demande d'investissement au plus bas, à cause de l'austérité pratiquée en Europe et aux États-Unis, essentiellement en ce moment. Que se passe-t-il lorsque l'offre est durablement supérieure à la demande? Le prix de cette chose baisse. Qu'est-ce que c'est? L'argent. Quel est son prix? C'est le taux d'intérêt réel. On ne peut donc pas leur reprocher des taux d'intérêt très bas, car ils ont été livrés à eux-mêmes, car nous, les politiciens, et moi-même, nous sommes mis dans cette catégorie. On a raté le coche. Existe-t-il des théories économiques que nous devrions adopter à bras le corps ou devrions-nous simplement conclure que des alternatives bien plus radicales sont peut-être nécessaires? Eh bien, ce que je dis à mes étudiants à l'université, c'est qu'ils ont le devoir d'étudier chaque théorie économique jamais publiée, d'en comprendre intimement les failles, puis, lorsqu'il s'agit de porter un jugement, de les oublier toutes et de conserver toute la vivacité d'esprit que représente cette étude éclectique de différentes théories. Ce à quoi je suis catégoriquement opposé, c'est que je pense que les modèles économiques représentent un danger évident et immédiat pour nos économies sociales. Je suis mathématicien. J'ai un doctorat en modélisation économique. J'adore ça, mais c'est un peu comme les échecs. Si un général essayait de convaincre, à partir des échecs, de la bonne stratégie pour mener une véritable guerre, ce général serait dangereux. De même, un économiste qui prend un modèle et tente d'en tirer la bonne politique monétaire, budgétaire ou d'investissement représente un danger évident et immédiat pour le reste de la société. Concernant le contrôle des prix, cela dépend de votre compréhension du fonctionnement des marchés. Si vous pensez qu'il s'approche d'une concurrence parfaite, alors bien sûr, il ne devrait pas y avoir de contrôle des prix, car dès qu'on s'y oppose, on fausse le marché. Mais lorsqu'on constate qu'en pleine crise énergétique, des entreprises énergétiques comme EDF prospèrent, leurs marges bénéficiaires sont colossales et augmentent pendant la crise. Le marché est déjà clairement faussé. Et vous savez, si vous envisagez de retirer de l'argent, des bénéfices, voire des rentes, de l'économie britannique pour, en tant qu'entreprise publique française, les utiliser pour subventionner les travailleurs et les clients français, alors vous devriez leur imposer un contrôle des prix massif. Toute autre mesure revient simplement à se rendre complice de ce qui constitue une distorsion majeure. Concernant l'indépendance des banques centrales, les banques centrales ne sont indépendantes de rien. Elles sont peut-être indépendantes du gouvernement, mais elles ne le sont certainement pas. La Banque centrale européenne est la banque la plus fortement dépendante politiquement de l'histoire du monde. Parce que, vous savez, ils ne peuvent rien faire, rien sans le feu vert de l'euro, ce groupe de ministres des Finances non élus. Ils pourraient même dire à leur Parlement ce qu'ils ont ordonné à la Banque centrale européenne. Considérez cela comme une institution centrale indépendante, indépendante de la démocratie, indépendante du peuple, mais la Banque d'Angleterre l'est aussi, d'une certaine manière, n'est-ce pas? Et je pense que nous devrions sérieusement envisager différentes manières de nommer les conseils d'administration des banques centrales. C'est intéressant. Et ce que vous dites, c'est que le problème fondamental, c'est le personnel et la façon dont il est sélectionné. Je pense que oui, et à qui répond-il? Imaginez, vous savez, je suis athénien, n'est-ce pas? J'ai une croyance très profonde dans le jurisprudentiel, issue de l'expérience athénienne antique avec les juges. Imaginez donc si vous aviez, par le biais d'un conseil d'administration, qui peut être sélectionné au hasard, mais parmi un groupe de personnes expertes et représentant différents secteurs de la société, des entreprises, des syndicats, des municipalités, etc. Ce sont eux à qui les directeurs des banques centrales doivent rendre des comptes et à qui ils doivent expliquer ce qu'ils ont fait. Très bien. Eh bien, Vicky, le DEO, c'est-il la solution?
Pour continuer à regarder cette vidéo, cliquez sur le lien en haut à gauche ou dans la description ci-dessous, ou visitez deux.tv pour plus de débats et de discussions des plus grands penseurs du monde sur les plus grandes idées d'aujourd'hui.